France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
La mélancolie serait pour les artistes et les créateurs une source d'inspiration, un état favorisant l'intériorité et l'expression d'une pulsion créatrice. La chose est connue, ou plutôt discutée, depuis des temps très anciens. Aristote, en son temps, faisait un lien entre l'humeur mélancolique et la créativité. Cet état d'esprit a inspiré au peintre et graveur Albrecht Dürer l'un de ses travaux les plus fameux, une gravure de 1514 intitulée précisément « Mélancolia ». On y voit deux figures célestes, un ange et un angelot, dans une même posture contemplative, méditative, le regard perdu au loin, au milieu d'un enchevêtrement de symboles, sphères, polyèdres, sabliers, astres. Quelle signification revêtent précisément ces symboles dans ce chef-d'œuvre de l'histoire de l'art ? C'est ce que nous expliquent Claude Gagnebet et Claude Mettra dans cette émission de 1982.
L'existence entière me remplit d'angoisse. Depuis le moindre moucheron jusqu'au mystère de l'incarnation. Elle est tout entière inexplicable pour moi, surtout moi-même. L'existence entière est infectée pour moi, surtout moi-même. Grande est ma souffrance, sans limite. Nul ne la connaît sinon Dieu dans le ciel, et il ne veut pas me consoler. Nul ne peut me consoler sinon Dieu dans le ciel, et il ne veut pas avoir pitié. Aussi loin que se reporte mon souvenir, j'étais d'accord avec moi-même sur un seul point. Je ne trouverai aucune consolation ni aucune aide auprès des autres. Rassasié des nombreux biens qui m'étaient par ailleurs accordés, ayant la nostalgie de la mort en tant qu'homme, souhaitant la vie la plus longue possible en tant qu'esprit, j'avais la pensée, dans mon amour mélancolique pour les hommes, de leur être secourable. Très loin dans mon souvenir remonte cette pensée qu'il y a dans chaque génération deux ou trois êtres qui sont sacrifiés aux autres, pour découvrir dans de terribles souffrances ce qui leur profite. C'est ainsi que je me comprenais mélancoliquement moi-même. J'étais élu pour cette mission. Søren Kierkegaard. Albert Dürer et l'ange de la mélancolie. Claude Gagnebet, Claude Mettra. L'atelier du temps.
Il est des œuvres dont aucune lecture jamais n'épuisera la richesse. Telle est sans nul doute la célèbre Mélancolia d'Albert Dürer. Témoignage d'un homme, d'un artiste sur son propre voyage dans les abîmes de l'esprit, mais à travers Dürer, témoignage aussi de toute une époque, de cette renaissance dans son automne, une renaissance qui a rassemblé en elle tout l'héritage de l'Antiquité méditerranéenne, tout l'héritage aussi de la chrétienté médiévale, pour inventer une image nouvelle de l'homme, de la terre et du ciel. En ce début du XVIe siècle, les lumières radieuses de l'Italie ne rendent plus compte de l'infinie diversité du monde. Les dieux païens s'étaient un moment confondus avec la clarté du Christ de gloire, dans un rêve où était révélée aux hommes la beauté de la création. Mais au-delà de la beauté, au-delà de l'harmonie dont Léonard et Michel-Ange ont dit qu'elles étaient l'essence même du divin, réapparaît l'obsession qui traverse toute l'histoire humaine, celle du grand secret. Celle d'une connaissance qui ouvrirait la créature humaine au mystère même de la vie et de la mort. Cette quête du grand secret, une quête qui exalte toutes les forces vives mais qui entraîne aussi au bord du gouffre, elle est sans doute à la source de la gravure d'Albert Durer. Et le voyage que nous entreprenons aujourd'hui autour de cette gravure n'a point pour ambition de chercher la finalité dernière de cette œuvre. Il en existe bien des interprétations dont nous aurons à faire mention. Il est plutôt de donner à rêver sur une composition qui, de toute évidence, est une expédition intérieure. Une expédition dont nous ne partagerions pas les étapes avec tant d'émotions si elle n'était pour une part notre propre voyage. Albert Durer a 43 ans lorsqu'il grave la Mélancolie. Depuis 1513, et l'on en trouve trace dans les deux autres grandes compositions où éclate son génie de graveur, je veux parler de Saint Jérôme et du Chevalier, la mort et le diable, depuis 1513, Durer est traversé plus qu'à l'accoutumée par une inquiétude souvent proche de l'angoisse qui fait partie de sa nature profonde. Et ce déchirement intérieur va s'aggraver encore avec la mort de sa mère, Barbara, mort survenue le 17 mai 1514. La mélancolie n'est point une de ces images qui offrent au premier regard une architecture claire. Aussi nous faut-il d'abord, Claude Guénubé, regardez l'ensemble de cette dramaturgie.
Il est important d'être au fond d'abord d'accord sur la littéralité, disons, des objets qui apparaissent et qui sont très nombreux. On a presque l'impression d'un bric-à-brac qui apparaissent dans ce tableau. On a l'impression que c'est rempli, c'est presque comme une boutique. Alors on peut partir un peu de n'importe quel point. Peut-être le plus important, enfin, d'ailleurs celui qui a été plus souvent commenté, c'est dans le coin supérieur gauche, un astre qu'il nous faut identifier, en plein ciel, enfin dans le ciel, surmonté d'un arc, dont on ne sait pas trop si c'est un arc-en-ciel, et dans cette même portion du ciel, une chauve-souris, qui tient une banderole, un peu comme les prophètes tiennent une banderole prophétique, et sur cette banderole, en caractère latin, Melancholia, puis un signe qui désigne que l'on passe à un autre mot, mais il n'y a pas de mot ensuite, il y a uniquement ce qu'on peut identifier soit comme un I, soit donc un I qui serait un I initial, soit comme un 1. Cet astre se lève sur un paysage marin. On aperçoit quelques navires près d'un port, sur une mer traitée avec des longs traits, une mer très calme, très lisse. Si on continue la description de la gravure, on parvient ensuite à une pierre. On sait que Durer a fait plusieurs études pour cette pierre. C'est une pierre taillée, un polyèdre, taillée de manière assez complexe, près duquel se trouvent d'une part deux creusets, avec même une pincette, tout près des creusets. L'un des creusets est enflammé. Ce sont les creusets qui étaient utilisés pour purifier les métaux. Et vous savez que dans l'atelier de son père, Durer avait pu voir de tels objets. Et près de la pierre, sur une des faces, se trouve un marteau, très simplement traité, puis un grand chien, un lévrier, même, on peut fort bien distinguer la race, un lévrier qui est recroquevillé sur lui-même et qui a l'air somnolent, près duquel se trouve, si nous continuons à tourner ainsi dans le tableau, près duquel se trouve un encrier. C'est un objet qui a été discuté, mais étant donné les autres représentations de ce même objet chez Dürer, il n'y a aucune hésitation. Il s'agit bien d'un encrier portable, on aperçoit les liens, tels que les intellectuels du Moyen-Âge ou de la Renaissance pouvaient en porter à leur ceinture. On pouvait le fermer de façon à éviter de le renverser. À côté, une sphère, et cette sphère a été calculée grâce à un gabarit qui apparaît tout près de la sphère. Puis une série d'instruments qui sont des instruments, disons, de charpentier, qui sont disposés sur le sol. On distingue, disons, à la suite les tenailles, ou du moins uniquement les pinces d'une tenaille, un rabot, une scie de charpentier telle qu'elle est représentée très classiquement sur l'épaule de Saint-Joseph dans les fuites en Égypte au Moyen-Âge, et puis une règle et quatre clous. Là aussi, ce sont de grands clous de charpentier. Et enfin, dépassant légèrement sous la robe du personnage principal, un objet qui a été lui aussi assez discuté, mais la plupart des gens qui se sont occupés de cette gravure estiment qu'il s'agit de l'extrémité d'un soufflet. Et vous savez, c'est la partie qu'on appelle l'âme du soufflet, ce tube de métal qui conduit le souffle à l'extrémité du soufflet. Et nous parvenons au personnage principal, qui est un ange avec des ailes. Cet ange a la tête appuyée sur le bras gauche, dans l'attitude classique de la mélancolie. Et il est couronné de plantes qui ont été identifiées, qui sont de ces lâches. Une couronne, comme on en faisait aussi fréquemment à cette date. Il tient par une des branches et par la pointe de cette branche, il tient un compas de charpentier lui aussi. Il le tient dans la main droite et son bras droit est appuyé contre un livre fermé, et même entièrement fermé, puisqu'on aperçoit le fermoir qui le clôt. Si nous continuons cette description de ce personnage, il est, comme tout ange, de sexe indéfini, et il a à la ceinture accroché deux objets par des rubans, comme on le faisait à l'époque. D'une part, quatre clés, qui sont faciles à distinguer, qui sont au niveau de la hanche environ, et puis par un cordon beaucoup plus long, aussi, c'était une habitude, une bourse dont on aperçoit les cordons de fermeture avec plusieurs replis. Près de cet ange principal se trouve un petit ange, un angelot, qui est assis sur une meule, ou du moins ce qui paraît proche d'une meule. Et il n'est pas assis à même la pierre, mais sur une tunique dont on aperçoit la frange de poils. On peut donc imaginer que c'est une tunique velue mais renversée. Il est en train, lui, d'écrire, de graver exactement, parce qu'il a un poinçon de graveur. Il est en train de graver de la main droite sur un petit écriteau muni d'un cordon. Et ce sont les écriteaux tels que les emplois Dürer généralement pour marquer son monogramme. Lorsqu'il indique son monogramme, par exemple dans Saint-Jérôme, dans sa cellule, qui a été gravée à cette même période, eh bien son monogramme est sur un écriteau de ce genre, mais on n'aperçoit pas ce que l'ange ce que Langelot, du moins, est en train de graver. Le monogramme lui-même apparaît sur une sorte de marche assez longue sur laquelle est assis le personnage principal, et on aperçoit 1514 et le monogramme de Dürer, ce monogramme classique avec un A en dessous duquel se trouve le petit D. Peut-être nous faudra voir s'il a voulu le situer ce monogramme à plusieurs endroits de son tableau, par exemple. Et puis, derrière le personnage principal, la mélancolie, derrière se trouve un bâtiment dont on aperçoit deux faces. Sur la face qui nous regarde, gravé apparemment dans la paroi, se trouve un carré magique. Carré magique, vous savez, ce sont des carrés quand on fait la somme, soit en diagonale, soit en long, soit de haut en bas, on obtient toujours la même somme. C'est un carré magique assez connu, qui est celui de Jupiter. Un carré magique, donc la somme est 34. Et accroché toujours sur cette face, deux objets, au-dessus du carré magique et parfaitement dans l'axe de ce carré, qui comporte 16 petits carrés, donc dans l'axe parfait, se trouve une cloche qui est en équilibre, dans un équilibre parfait, elle ne sonne pas, elle est immobile. Près de cette cloche, toujours donc sur cette même face, un sablier dont la caractéristique est que nous sommes soit à midi, soit à minuit, puisque on aperçoit d'une part la petite flèche du sablier qui indique le 12, et d'autre part on s'aperçoit qu'il y a autant de sable dans la partie supérieure que dans la partie inférieure. Sur l'autre face de ce bâtiment, sur lequel l'ange ne s'appuie pas, mais enfin devant lequel il se trouve, une balance, lui aussi, elle aussi accrochée dans un clou qui se trouve dans la face du bâtiment. C'est la balance classique, peut-être les balances qu'utilisaient les orfèvres en train de peser leurs métaux. Et enfin, appuyé sur la face que nous ne pouvons pas voir, c'est-à-dire appuyé de l'autre côté de ce bâtiment, proche ou plus ou moins appuyé sur la pierre polyédrique que nous avons décrite, se trouve une échelle à 7 barreaux. Je crois que nous avons vu à peu près l'essentiel des détails, disons qui sont indubitables, sur lesquels il n'y a pas de discussion. Pourtant, à plusieurs reprises, des gens qui avaient regardé la gravure m'ont fait remarquer que l'on aperçoit, mais je ne sais pas si ce n'est pas un artefact, sur une des faces du polyèdre, qui est traité, vous savez, en pointillé, que l'on apercevrait une face qui représente, vous savez, un peu aussi vague que la face que l'on aperçoit dans la Lune, et qui représenterait, de manière très vague apparemment, une tête de mort. Je le signale parce que ça m'a été signalé à plusieurs reprises par des gens qui tentaient une description de ce genre-là.
Dans l'organisation générale de la scène, Dürer témoigne d'une prédilection particulière pour la ligne courbe, le cercle, la sphère. Tout ce qui touche en somme au domaine du rond. Une sorte de voûte semble soutenir le ciel. Une voûte qui symboliserait les cercles concentriques qui constituent l'espace éthéré. Les ailes de l'ange se recourbent comme pour former un demi-cercle. Le vêtement s'inscrit dans un drapé qui se referme sur lui-même. Et multiples sont les figures du rond que Dürer dispose ici ou là comme autant de rappels de cette obsession du courbe. Encrier, cloche, plateau de la balance, creuset, sablier. Et les deux visages de l'ange et de l'angelot, ils ont eux aussi cette morphologie pleine et ronde que l'on prête d'habitude au tempérament vénusien ou lunaire. Et peut-être cette fascination du cercle est-elle le symbole même du voyage mélancolique, celui que l'on accomplit sans fin autour de soi-même.
Il est possible que l'ensemble soit, disons, une sorte de commentaire esthétique du compas. Le compas étant un instrument de graveur très important, et bien sûr, l'ensemble de ces gravures sont faites au compas, si l'on peut me passer l'expression, ce qui expliquerait ces courbes. Tout de même, quand on pénètre dans l'interprétation de la gravure, on s'aperçoit que le nom même de courbe, de cercle, de sphère, est ce qu'il suppose, disons, dans la mystique, ou même dans la Kabbale à l'époque, est en arrière-plan de l'ensemble de cette gravure, ce qui expliquerait la présence constante de cette forme.
Ces objets que nous allons reprendre les uns après les autres, ils semblent hors du champ de cet ange qui est le personnage capital de cette mise en scène. Et le spectateur de cette gravure ne manque pas, d'abord, d'être frappé par le regard de l'ange de la mélancolie, se demandant où porte ce regard.
Les mélancoliques étant considérés comme des gens dont le regard se tournait toujours vers l'extérieur, puisque ce sont non seulement les génies mais les grands voyants qui ont un tempérament mélancolique, cela explique que, après bien d'autres d'ailleurs, Durer, est donné à cet ange de la mélancolie un regard qui est, disons, celui du méditatif, du voyant, que l'on retrouve par exemple dans Saint Jean à Patmos. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin et se demander si le regard voit particulièrement l'étoile, par exemple? J'ai l'impression qu'il voit en effet autre chose que ce qui l'entoure. Ce qui est essentiel, c'est que c'est un personnage qui est en train de méditer profondément sur un certain nombre de calcul, par exemple, qui lui serait donné par son compas, mais pas sur un des objets particuliers qui l'entoure, sûrement pas, et il semble, disons, relativement, comme tout ange d'ailleurs, et venu et parti ailleurs, par rapport à tout ce qui l'entoure.
C'est ailleurs d'où est venu l'ange. C'est peut-être le ciel figuré par Durer dans le coin supérieur gauche de la gravure. Ciel brisé, puisqu'il est partagé par un immense cercle qui semble figurer un arc-en-ciel. Arc-en-ciel purement mythique peut-être, car nous ne savons pas si nous sommes dans l'éclat du jour ou l'obscurité de la nuit. Et à l'intérieur de cette part de ciel circonscrite par cette grande ligne courbe, un astre brillant dont les rayons s'épanouissent comme ceux d'un immense soleil. Sur la nature de cet astre, l'interprétation peut changer, suivant qu'il est ici question de l'astre diurne, soit le soleil lui-même, soit Sirius qui parfois se lève sous les rayons du soleil, ou d'un astre nocturne qui ne peut être que Saturne, traditionnellement associé à la mélancolie. Saturne, planète du temps dévorateur, souvent qualifiée de grand maléfique, planète située à l'extrême du ciel, et plus qu'aucune autre marquée d'une forte coloration métaphysique, planète qui, sous sa souveraineté, tient tous les abîmes de l'esprit.
Quand on a reconnu Saturne dans cet astre, Saturne ne peut apparaître que la nuit, ça pose déjà le premier problème. L'arc qui est au-dessus ne peut pas être un arc-en-ciel. La présence, bien sûr, tout à côté de la mélancolie, coïncide bien avec Saturne, et d'autre part, le fait que Saturne soit une planète pesante, triste, en rapport avec le noir, avec la mélancolie, s'explique bien si, en même temps, l'on reconnaît, dans le personnage central, tout simplement, l'ange de la mélancolie.
Et nous savons que là, nous sommes au milieu même de la nuit, puisque selon ce que nous indique le sablier, nous sommes là exactement à minuit.
Donc nous serions à minuit avec l'ensemble de ce qui dépend des activités du tempérament saturnien ou du tempérament mélancolique. D'abord, l'ensemble des activités qui dépendent de la géométrie, car on estimait que l'aptitude à la géométrie dépendait de Saturne. Et là, parmi les enfants de Saturne paraissent en effet les géomètres, ce qui explique, par exemple, la présence du compas. Mais d'autre part, il y avait un risque, disons, du tempérament saturnien. Le tempérament saturnien était mis en rapport avec le génie, et le risque était bien sûr la trop grande tristesse, je parle au moins de l'époque de la Renaissance, la trop grande tristesse que pouvait entraîner le fait de se livrer à des recherches qui confinaient au génie. Dans cette perspective, un détail s'explique par exemple très bien. Les intellectuels de la Renaissance, à partir d'un texte du pseudo-Aristote qui met en rapport le génie et le tempérament mélancolique, un texte qui s'interroge et se demande comment se fait-il que tous les génies soient de tempérament mélancolique, eh bien les intellectuels de la Renaissance se reconnaissent donc que et Saturne et la mélancolie, un peu comme leur saint patron, ce qui expliquerait, par exemple, la présence de l'encrier. Et Marcille Fissin insiste beaucoup en disant, par exemple, que les écrivains doivent être très attentifs à ne pas trop travailler la nuit, à s'éclairer le plus possible, à s'habiller en blanc, par exemple, à s'accompagner de musique, de façon à éviter, disons, de mettre encre sur encre. Et la présence, donc, de cet encrier explique assez bien cette interprétation en rapport avec la mélancolie.
Ce Saturne est une réplique nocturne du feu diurne que représente le soleil. C'est un feu très particulier, c'est dans une certaine mesure un feu froid. Et par là même, à la fois inaccessible et dangereux.
Oui, on a vu une confirmation, en fait, de cet extrême danger de la prééminence de Saturne. On a vu dans certains détails du tableau qui font appel à des moyens qui sont signalés à l'époque, à des moyens de s'opposer à la mélancolie, de prévenir la mélancolie. Il y a deux grands moyens de prévenir la mélancolie. Il y a la facétie, et vous savez que des auteurs comme Rabelais, constamment, insistent en disant que leurs œuvres ont pour but essentiel de s'opposer à la mélancolie. Et vous savez, les traités de facétie de l'époque, qui sont des traités souvent dus à des intellectuels, ou alors la façon dont, de temps en temps, les grands intellectuels se délassent dans certains traités, on pense à l'éloge de la folie, par exemple, d'Érasme, ont un but médical précis, celui de s'opposer à ce que la bile noire, en s'accumulant peu à peu, la mélancolie, en s'accumulant peu à peu, ne nous entraîne finalement vers le désespoir. Et alors, il y a au moins deux éléments qui correspondent très bien à cette interprétation. La présence d'une couronne de plantes qui ont été identifiées, il s'agit de l'âche, et ce sont des plantes qui étaient réputées, dans les traités de magie à l'époque, s'opposer à la mélancolie. Donc on comprend très bien que ce personnage, bien qu'il soit plongé dans une méditation mélancolique, cherche tout de même à éviter de plonger dans le noir du désespoir. Et d'autre part, au-dessus de la tête, la présence du carré magique de Jupiter. Jupiter, c'est la joie. Dans les traités magiques de l'époque, on utilise en effet des carrés magiques de ce genre que l'on conseille aux mélancoliques de graver sur certains métaux joyeux, par exemple l'or ou l'argent, considérés comme des métaux joyeux. Éviter le plomb, bien sûr, qui est le métal de Saturne, et de les porter au cou, car comme il s'agit d'un carré magique de Jupiter, on va par ce moyen-là s'opposer à la mélancolie. Thank you.
C'était Les chemins de la connaissance par Claude Métra et Claude Gagnebé, Dürer ou l'ange de la mélancolie, premier volet, l'atelier du temps. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 mai 1982. Vous pouvez la réécouter en ligne sur le site franceculture.fr à la page des Nuits de France Culture et sur l'application Radio France.
I didn't think you'd come back. You were gone for hours. I blew out all the candles. I threw away the flowers, and now I just hold your gaze. Tears to the floor where before was rain. You put a hand on my shoulder, white knuckles grasping. I turn my face to touch you. Last time I'm asking, hold my gaze. Face creeping slowly to that smile you made. It's not the truth, you know. I need you so.